Alors, toute première réaction à ce passage d'évangile proposé pour ce jour, et c'est la même réaction dont me faisait part Jean-Marc tout à l'heure, mais quel fourre-tout ! Alors, nous sommes au début de l'évangile de Marc, et vous le savez, Marc, c'est le premier des évangiles dans sa rédaction. C'est aussi le plus factuel et le plus court des quatre évangiles. Jésus vient d'être baptisé par Jean. Il a été tenté dans le désert. Il a appelé ses premiers disciples pour en faire des pêcheurs d'hommes. Et là, au troisième chapitre, il a déjà guéri beaucoup de malades. Il a même commencé à enseigner à propos du jeûne et du sabbat, dont l'homme est le maître, disait-il. Au début du chapitre 3, Jésus guérit encore un homme à la main paralysée. Puis, nous arrivons à notre passage avec une renommée de Jésus qui le dépasse. Le choix des 12 apôtres, la discussion avec les maîtres de la loi à propos des esprits mauvais, et enfin les propos de Jésus sur la famille. Mon impression pour le début du passage est de la sympathie avec ce Jésus complètement dépassé par la situation. Il n'est qu'au commencement de son ministère et il semble déjà submergé dans sa mission. Devant l'afflux important de la foule, ayant appris ses nombreuses guérisons réussies, il presse ses amis : « Préparez-moi une barque, afin que la foule ne m'écrase pas. » En grec, ce verbe « klibo » signifie « serrer, resserrer ». Et il ne se retrouve qu'une seule autre fois dans les évangiles chez Matthieu pour qualifier la porte étroite. La porte serrée, celle qui mène à la vie et par laquelle Jésus nous invite à entrer. Je vous relis ces deux versets de l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Alors, comme la vie de ce Christ n'a pas été facile et n'a pas coulé comme un long fleuve tranquille, mais a eu aussi ses passages étroits, notre propre vie, ma propre vie, ne peut qu'en être de même. Il y a parfois encore ce sentiment que oui, si l'on croit, si l'on est un bon chrétien, notre vie quand même devrait être plus simple que celle des autres. Eh bien, c'est une erreur. Il y a parfois, il y a souvent dans nos vies, des moments où je me sens oppressée par les événements, où je semble étouffée par une vie trop compliquée, où je manque d'air. Nous le lisons ici, c'est d'abord la vie de tous, celle que chacun traverse, croyant ou non, mais c'est aussi la vie du chrétien, de celui qui est appelé à choisir cette porte serrée, cette porte étroite. Celle qui ouvre sur la vie. Dimanche dernier, le pasteur Isabelle Pierron nous rappelait le chemin voulu par Dieu pour chacun de nous. La bienveillance, le pardon, l'amour, la paix, l'espérance. Et tous ces chemins sont souvent laborieux et pas vraiment évidents dans nos choix au quotidien. Ce fameux « choisis la vie » du Deutéronome n'est vraiment pas simple à appliquer à chaque instant. Alors donc, c'est un Jésus dépassé, étouffé par la porte étroite qu'il doit trouver à chaque instant dans son ministère d'envoyé. C'est ce Jésus-là avec qui nous commençons notre texte. Et à ce moment précis pour lui, quand cette foule l'étouffe, c'est difficile. Comme j'affectionne ce Jésus humain, celui qui appelle au secours ses amis pour ne pas sombrer. Comme je me reconnais dans cet homme Dieu qui vit aussi ses moments de difficulté et qui cherche de l'aide auprès de ses amis. À Alors si Jésus le fait, faisons-le aussi, sans honte ou soi-disant discrétion, car oui, c'est vrai, quand nous nous sentons trop serrés, quand nous avons des difficultés dans nos portes étroites, nous pouvons demander de l'aide. Nous pouvons demander à nos amis de préparer une barque pour ne pas être étouffés. Il est d'ailleurs assez cocasse de lire qu'ensuite nous ne savons pas, finalement, si ses amis ont pu l'aider ou pas et s'il a pu s'échapper. Le texte ne nous le dit pas. Nous passons directement du récit du bord du lac à celui de la montagne, sans autre transition géographique. Nous pouvons nous autoriser à penser que oui, Jésus a pu être secouru, car il semble tout à fait remis au moment du choix de ses disciples en haut de la montagne. Alors nous avons tout de même dans ce récit une transition entre lac et montagne, avec ce récit sur les esprits mauvais que Jésus va rabrouer. Ne dites pas qui je suis. Le succès de Jésus le guérisseur ne doit pas se servir de l'identité de Jésus. Lors de son ministère, Jésus a toujours refusé que son identité de fils soit dite par un autre que par son père. Rappelez-vous, au début de l'évangile de Marc, pendant le baptême de Jésus, c'est Dieu le Père qui va lui dire « Tu es mon fils très aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Alors ici, quand c'est dans la bouche d'esprit mauvais, Jésus le rejette d'autant plus. Il ne veut pas oublier que la relation au Père est une relation de confiance, mais qui ne s'établit pas dans la guérison. Il n'y a pas de Fils de Dieu sans confiance, et toutes les guérisons du monde n'y changeront rien. Ce rejet de Jésus face aux esprits mauvais montre que son immense popularité ne doit pas être exploitée par les forces du mal. Seul le Maître choisit ses témoins, et c'est ce qu'il fait ensuite, avec le choix des autres disciples en haut de la montagne. Alors, après ce court répit pour lui, accompagné maintenant des 12, Jésus revient à la maison, écrit Marc. Et la foule aussi. Tellement pressante que, poursuit le texte, Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Il est assez surprenant que le rédacteur de cet évangile consacre de l'importance à de si petits détails. Ils n'ont pas le temps de manger. Nous pourrions nous dire, alors quoi? Quelle importance? Jésus avait quand même des choses plus importantes à faire que de manger. Bien, si c'est écrit, c'est que cela a de l'importance. J'aime de nouveau à penser, comme tout à l'heure pour ce Jésus qui demande de l'aide, que notre Christ, l'homme-Dieu, ait-tu des besoins aussi primaires que celui de manger. Vrai Dieu, Jésus est tout autant vrai homme, avec des besoins aussi naturels que les nôtres. J'affectionne ce Jésus qui a faim. Alors, c'est alors que les siens, le texte nous dit sa parenté, sa famille, selon les traductions, sûrement inquiets de l'enchaînement des événements, viennent le chercher. Et dans notre texte, on nous dit « parce qu'il était devenu fou ». En grec, c'est le verbe « existémi » qui signifie « être hors de sens ». Une seconde et unique autre utilisation de ce verbe se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. « Si nous avons été fous, hors de sens, c'est pour Dieu. Si nous avons été raisonnables, c'est pour vous », dit l'apôtre à la communauté de Corinthe. Et ce petit verset éclaire la fin de notre chapitre 3 sur les fameuses questions controversées de Jésus. Où sont ma mère et mes frères? Qui est ma mère? Qui est mon frère? L'évangile semble alors ici perdre tout sens pour ceux qui l'entendent. Et la famille de Jésus vient le museler, ou alors, dit de façon moins virulente, le protéger, d'un état qu'il ne maîtriserait plus, d'actes ou de paroles qui dépasseraient l'entendement. Il est devenu fou. Qui est donc en effet celui qui ose remettre en question la place du jeûne et du sabbat? Qui est celui qui choisit ses disciples parmi les petites gens? Qui est celui qui enseigne à l'extérieur des synagogues, qui guérit de tous côtés et qui réduit au silence les esprits mauvais? Jésus prend des risques et va si loin qu'il se coupe de sa propre famille qui préfère alors le cacher. Et nous? Et moi? Ai-je foi en ce Christ audacieux? Ai-je le courage d'aller si loin que me le demande l'Évangile parfois, au prix peut-être de mes relations amicales ou familiales? Jésus n'a jamais été un penseur attablé derrière la loi et un rédacteur de pamphlets théologiques. Jésus a toujours vécu, mangé, pleuré, parlé et agi au milieu de tous, des foules, des plus petits comme des plus respectables, des femmes comme des hommes, des juifs comme des païens. C'est dans la rencontre avec le prochain, dans la vérité du cœur, qu'il n'a eu de cesse d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chacun. Et sans se soucier des critiques, des menaces, des qu'en dira-t-on ou d'une soi-disant réputation à honorer. Et vous le savez, pour tout cela, il en a perdu jusqu'à sa propre vie, pour que chacun puisse la gagner pour toujours. C'est alors que dans notre texte, les maîtres de la grande ville, Jérusalem, viennent prendre cas de celui qui fait tant parler de lui. Ils sortent de leur synagogue et de leur ville pour aller dans la campagne rencontrer ce fameux guérisseur. Le petit guérisseur de province est alors moqué en étant appelé par eux le seigneur des mouches, ce fameux Belzéboul. Jésus se voit accusé de faire alliance avec les esprits mauvais pour guérir, ce qui revient à le considérer comme un magicien, personnage redouté et très sévèrement puni en Israël. Et Jésus se défend avec des paraboles. Non, il n'est pas traversé par les esprits mauvais, il ne vit que de l'Esprit de Dieu en lui. Et alors ce joyeux fourre-tout, chapitre 3, se termine par cet épisode fameux du Jésus tournant le dos à sa famille. Mais sachant que cette même famille le croit, souvenez-vous, hors de sens, le croit fou, et veut l'enfermer pour éviter toute polémique, on comprend mieux que Jésus ne soit pas ravi de les retrouver à nouveau à la porte. Et on entend alors plus facilement ces difficiles questions. Où sont ma mère et mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Alors, bien entendu, Jésus ne fait pas l'apologie de la rupture familiale, mais simplement il s'agit pour lui de refuser le nini. Il témoigne que la bonne nouvelle doit se vivre pleinement et qu'il est sage de remettre chaque chose à sa juste place. Notre identité d'enfant de Dieu est celle qui surpasse, qui englobe toutes nos autres identités. Quand mes parents ne seront plus, quand je serai en rupture avec mes enfants, quand ma sœur me tournera le dos, quand je serai sans amis et que je n'aurai plus de communauté, Dieu le Père, en Jésus-Christ, sera toujours à mes côtés. Et je serai, pour l'éternité, fils, fille du Dieu vivant. Et en Dieu, exprime ainsi Jésus, ma mère, ma sœur, mon frère sont ceux qui suivent la voie du Père. Alors en ce domaine, point de leçon à donner à quiconque, car vous le savez, chacun voit la volonté de Dieu à sa porte. L'un verra ceci, et puis l'autre son exact contraire. L'une écrira ceci en parlant de l'évangile et l'autre vivra le même évangile en écrivant le contraire. Mais est-ce possible? Est-ce tenable? Vous pensez peut-être que j'exagère. Et ce serait si beau si les chrétiens étaient toujours d'accord. Si même une communauté vivait toujours en bonne entente. Ce serait si beau et en même temps si triste. Car notre vie à chacun et ensemble deviendrait bien fade. Plus de discussions à la sortie de culte. Plus de discussions à la parution du journal de paroisse. Ou après une soirée débat. Plus rien à dire, toujours d'accord. Alors, maintenons ces piquants de nos vies. Et puis, mes amis, gardons le cap, celui de l'espérance, celui de la confiance que celui qui nous rassemble au-delà de nos coups de colère et de nos désaccords accueille amusé nos petites miettes de discorde et en façonne un joli pain qui nous nourrira tous une fois rassemblés à ses côtés. Mes amis, gardons le cap, celui aussi de la bienveillance. Prenons garde de ne pas nous décourager et nous épuiser en des colères qui font mal. Nous avons besoin de garder nos forces intactes. Nous avons besoin de vivre entre nous une tendre fraternité, si nous voulons en témoigner au monde. Car il nous faut bien d'abord être aimants entre nous, pour ensuite partager cet amour au dehors. Gardons intacte la bienveillance qui nous a été offerte en Christ, celle qui nous fait tenir debout chaque matin. Nous sommes des êtres humains et le resterons, tous autant que nous sommes. Et en cela, nous avons besoin les uns des autres. Soyons et vivons en frères et sœurs. Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, dit Jésus, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. Amen.